Il suffit parfois d'un détail, d'une couleur, d'un geste pour que la beauté s'invite dans notre quotidien. Un accessoire qui habille une tenue, un motif qui raconte une histoire. Pour ma part, j'ai toujours aimé porter des foulards. Et ceux de mon invité du jour ne vous laisseront certainement pas indifférents. Ils ont ce quelque chose d'à la fois poétique, universel, raffiné et élégant. Bonjour à tous. Pour ce nouvel épisode, je vous emmène à la Galerie du Roi, à deux pas de la Grand Place de Bruxelles. Là, derrière une vitrine arrondie aux boiseries vert profond, se cache un petit écrin délicat, la boutique de Roselyne d'Oreille. Un lieu hors du commun, à son image, où les foulards en soie se mêlent aux couleurs et aux histoires. Dès que l'on franchit la porte, on est enveloppé par un univers doux, vibrant et lumineux. Foulard au ton bleu et vert autour du cou, bague jaune au doigt, Roselyne m'accueille avec un grand sourire. Depuis toujours, le dessin et la création sont au cœur de la vie de Roselyne. Elle sait depuis toute petite que le dessin fera partie intégrante de sa vie. Quand elle dessine, elle se sent chez elle. Diplômée des Beaux-Arts, elle débute comme illustratrice pour l'édition Jeunesse, un monde qu'elle adore pour sa capacité à nourrir l'imaginaire des enfants et à créer des souvenirs pour les adultes qu'ils deviendront. Parallèlement, elle enseigne, explore l'art-thérapie, crée même des concerts dessinés avec un musicien. Voyageuse dans l'âme, Roselyne emporte toujours dans ses bagages un carnet. Il est en quelque sorte son refuge, son ancrage, un espace de liberté totale. Se poser pour dessiner lui permet de comprendre un lieu, de sentir l'atmosphère et d'accueillir un paysage. C'est là, dans ses pages, qu'elle retranscrit ce qu'elle ressent à travers ses croquis. Et puis un jour, la soie est entrée dans sa vie. D'abord grâce à un cadeau qu'elle trouve un peu ringard, avant de réaliser qu'il pourrait devenir un terrain d'expression extraordinaire, même un peu rock. De fil en aiguille, elle crée ses premiers foulards. Poussée par son intuition et son audace, elle envoie ses dessins à de grandes maisons de couture. Le reste se déroule de manière organique. Elle se met à vendre ses foulards, à communiquer, à comprendre qu'elle ne crée pas seulement des accessoires, mais des histoires à porter. Très vite, elle cherche un lieu où il y a du passage, une effervescence et une clientèle internationale. Une boutique où les gens peuvent toucher, essayer et même personnaliser leurs foulards et autres accessoires. Et oui, ils accompagnent les moments de vie, alors autant qu'ils soient notre image. Dans son travail, elle aime la facilité, la spontanéité, la poésie du geste. Elle termine d'ailleurs chaque design par un texte comme une signature. Nous sommes installés au sous-sol de sa boutique, dans un coin salon soigneusement décoré, des articles de presse encadrés au mur, café servi, micro installé, l'interview peut commencer. Vous écoutez « J'aime quand vous souriez », épisode 20. Bonjour Roselyne.
Bonjour Isaline.
Je suis ravie d'être là dans votre boutique, votre jolie boutique colorée et fleurie, ça fait du bien. Dans ces jours un peu plus où la pluie a repris le devant.
L'été s'est enfoui petit à petit.
Alors voilà, moi je souhaitais vous rencontrer et vous interviewer parce que je vous ai connue avec Béa.
Oui, tout à fait.
Par rapport à Béabi. Et j'avais beaucoup aimé vos créations. On avait eu l'occasion de venir visiter votre boutique et puis c'est un peu hors du commun.
Oui.
J'en connaissais pas avant vous et je trouve ça assez intéressant.
Merci.
C'est pour ça que j'avais envie de venir vous voir aujourd'hui. Et puis je vois que le dessin et la création sont toujours été au cœur de votre vie.
Absolument.
Vous avez été diplômée des Beaux-Arts de Saint-Luc à Liège. Et ensuite, vous avez commencé votre carrière en tant qu'illustratrice pour des maisons d'édition, pour l'illustration jeunesse.
Oui.
Et puis, vous avez enseigné aussi, si je ne me trompe pas. Vous avez fait beaucoup de choses.
Je fais de l'art-thérapie aussi.
Voilà, de l'art-thérapie et des expos aussi.
Oui,
sur,
des concerts de dessin.
Waouh, des concerts de dessin. J'ai entendu ça encore.
Oui.
Et ça consiste en quoi vous dessinez avec
un pianiste.
Avec un pianiste. Ah oui.
Et donc je dessinais en direct et le pianiste jouait de l'improvisation. Moi, c'était pas tout à fait improvisé, mais comme c'est du dessin en direct, c'est semi. Enfin, je connais la trame, mais chaque fois c'est de la création sur place, quoi.
D'accord.
Et donc c'était filmé et projeté sur un écran.
D'accord. Ah oui. Ok.
Parce que j'aime toujours, je fais une petite oui. aparté, j'aime toujours en fait l'art qui parle de lui-même, c'est-à-dire sans qu'on ait besoin de parler une langue, le français, l'anglais, peu importe. C'est pour ça que pour moi, par exemple, le dessin animé est un chef-d'œuvre, parce que c'est du dessin, de la musique et du mouvement. Enfin, pardon, le dessin animé sans parole, genre Fantasia, tout ça,
Ouais,
je trouve
ouais.
c'est extraordinaire.
Ouais.
Enfin, voilà, ça c'était la petite aparté.
Mais effectivement, j'avais déjà vu ça, mais c'était plus des dessinateurs de bande dessinée qui dessinaient au fil de la musique. Alors, est-ce qu'on peut commencer par le commencement?
Bien sûr.
Qui êtes-vous et où est-ce que vous avez grandi? Qu'est-ce qui vous a, comment vous avez découvert le dessin au cours de votre vie? Et puis, qu'est-ce qui vous a amené ensuite à créer vos propres créations et votre
Oui.
boutique?
Alors, qui je suis, je vais dire qui je suis aujourd'hui, parce qu'à chaque période de la vie, on change, on est qu'un d'autre. Donc aujourd'hui, donc je suis toujours Roselyne, ça c'est,
Ça, c'est sûr.
voilà. Donc aujourd'hui, j'ai effectivement une boutique de foulards et d'accessoires de mode, principalement en soie. Et puis alors, on a des sacs de cuir que je peins à la main, etc., dans les Galeries Royales Saint-Hubert, donc au centre de Bruxelles, plus connue sous le nom Galerie de la Reine. Mais en fait, il y a plusieurs parties, Galerie de la Reine, et nous, on est dans la partie Galerie du Roi.
D'accord.
Et donc, effectivement, moi je crée tous les designs de mes accessoires. On a des foulards, donc le typique foulard de soie de 90, qui est la taille la plus classique, et on a différentes autres tailles. Et puis, on a quelques vêtements toujours basés sur le format du carré, parce que moi je dis que je ne suis pas styliste, je crée des designs, je crée des dessins, j'aime la soie. Et j'utilise, en fait, mon objectif avec mon travail autour des accessoires, c'est de favoriser la créativité de mes clients. Donc, la plupart du temps, je cherche à ce que mes accessoires puissent s'utiliser de plusieurs manières et j'invite les clients à chercher leur manière d'utiliser l'accessoire. Donc, voilà, ça, c'est un petit peu qui je suis aujourd'hui. Mais mon parcours est un long parcours du combattant, on va dire. C'est-à-dire que depuis toute petite, j'ai une clarté dans la vie, c'est je serai dessinatrice. Ça, c'était vraiment depuis toute petite, je le disais, ça m'a suivi toute mon enfance, mon adolescence, etc. Alors qu'on est petit, être dessinateur, ça veut tout et rien dire. Quand on doit faire des choix d'études, c'est pas, c'est, ça doit se clarifier. Alors moi, j'ai pas fait des secondaires artistiques parce que je voulais continuer dans le réseau général. Comme je savais que je me destinais à une carrière artistique, j'avais envie de développer ma culture générale le plus longtemps possible. Mais quand il a fallu vraiment faire un choix d'études, j'ai choisi l'illustration pour plusieurs raisons. D'une part, parce que j'ai toujours été très animée par le monde des histoires, de l'inconscient, des contes, des métaphores, tout ce qui peut se véhiculer à travers l'histoire en général. J'ai choisi aussi l'illustration parce que je trouve, et principalement l'illustration jeunesse, parce que enfin, j'ai un amour fou pour les livres pour enfants. C'est extraordinaire les perles qu'on peut trouver là-dedans, autant au niveau artistique, donc graphique, qu'au niveau de l'histoire. Et il y a un truc qui est fascinant dans les livres. Il y a deux trucs qui sont fascinants. C'est que d'une part, l'histoire est toujours amenée pour aider l'enfant à grandir. Donc il y a toujours une dimension de développement, de quelque chose qui pousse la vie, en fait. Et puis, il y a autre chose qui me fascine, c'est que quand je demande à des adultes de se rappeler des livres qu'ils avaient quand ils étaient enfants, j'en ai pas encore trouvé d'adultes qui ne se souviennent pas
Ah oui, c'est
d'images,
sûr.
de livres ou de dessins animés si c'est des gens qui n'ont pas eu accès aux livres. Donc, les images ont un vrai pouvoir sur la construction de l'être que l'on est en devenir. Et donc, je trouve que c'est incroyable le pouvoir des histoires. Et donc, j'ai choisi tout ça. Et puis, la dernière raison pour laquelle j'ai choisi l'illustration, c'est parce que je trouvais qu'on apprenait vraiment à dessiner. Contrairement aux études de peinture ou quoi, on apprend plus les matières. On n'apprend plus vraiment, à mon goût en tout cas, vraiment la maîtrise du dessin. Moi, j'ai toujours voulu tout savoir dessiner. Donc j'ai été passionnée pendant mes études et puis quand j'ai été confrontée à la réalité du terrain, ça a été beaucoup plus difficile que ce à quoi je m'attendais. Je pense quand je relis ma vie, j'ai toujours eu un esprit d'entrepreneuse parce que dès le sortir de mes études, je me suis mise en indépendante complémentaire. J'y connaissais rien, j'avais pas le milieu familial qui m'y poussait. Donc malheureusement, j'ai continué pendant des années à essayer de développer ça, mais je pense pas vraiment suffisamment de base ou de réseau pour m'aider à construire ça. Et puis sans doute un manque de confiance en moi aussi. Enfin, c'est un mélange. Il y a tout un ensemble de choses qui ont fait que j'ai. Puis aussi, on ne savait pas communiquer comme on communique aujourd'hui. Enfin, avec Instagram, ça, je crois que ça a révolutionné le monde des gens qui travaillent dans le domaine visuel. Et alors, donc j'ai fait, après mes études d'illustration, j'ai fait des études pour enseigner. Donc j'ai trouvé un poste d'enseignante d'art d'expression un peu moins d'un mi-temps. Donc, je continuais mon travail d'illustration en dehors et j'ai travaillé dans l'enseignement. Alors, j'ai adoré les élèves. Vraiment, ça, il y a pas de sujet à ce niveau-là. Le milieu scolaire, vraiment, j'ai un respect énorme pour les
Ouais.
professeurs. C'est vraiment difficile parce que quand on est motivé, on n'est pas soutenu. Et je comprends tous les profs qui font des burn-out, moi j'en ai fait un, qui sont aussi blasés et donc qui mettent plus cette vivacité dans leurs cours. Je comprends vraiment parfaitement parce que malheureusement le système ne nous aide pas à favoriser le meilleur environnement possible pour enseigner de la meilleure manière. Et puis aussi j'ai démarré très jeune. Et c'est pas facile parce qu'on est vraiment lâché au milieu d'une classe vas-y, débrouille-toi, quoi. Donc, c'est vrai que quand on n'a pas encore beaucoup d'expérience de la vie de manière générale, je trouve que c'est plus difficile d'enseigner. C'est vraiment un vrai challenge.
Oui, parce que vous étiez experte dans votre domaine, mais après, c'est autre chose aussi de gérer des élèves,
Oui.
gérer leurs besoins, leur
Oui.
envie.
Oui, et puis moi j'avais un cauchemar, c'est que j'avais une classe qui c'était des anciens dortoirs, et donc j'avais une classe qui était séparée par un mur en plein milieu, donc mon bureau était en face d'un mur, donc mon bureau était comme ça, et un mur, je l'avais en vertical, donc j'avais une partie de la classe à gauche et une partie de la classe à droite. Mais c'est infernal de gérer une classe quand on est dans. Enfin bref, ne serait-ce que parfois les locaux, c'est des tas de petites choses qui font que l'enseignement n'est pas facilité. Voilà, j'ai tenu tout un temps, toujours espérant développer que mon travail artistique prenne le dessus pour que je puisse arrêter l'enseignement. Et puis, j'ai aussi démarré l'art-thérapie parce que c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. J'ai fait beaucoup de formations en art-thérapie, en développement personnel, etc. Parce que c'est cette compréhension de l'inconscient qui me fascine, parce que je me suis vite rendu compte que quand on touche à la créativité des gens, on touche à ce qu'ils ont à l'intérieur et donc à tous leurs freins, tous leurs, je vais pas dire manque ou trop de confiance. La confiance en soi, la difficulté, c'est d'avoir une bonne estime de soi, c'est-à-dire connaître ses limites, connaître ses forces. Mais c'est pas facile. Et donc la créativité vient toucher à ce qu'on a de plus vulnérable en soi parce qu'on sort quelque chose de soi. Et donc je me suis vite rendu compte que je touchais à des choses parfois assez fragiles, surtout avec des ados. Et donc je me suis beaucoup intéressée à l'art-thérapie. J'ai fait vraiment pas mal de choses, ça m'a énormément intéressée. J'ai aussi démarré en tant qu'art-thérapeute, mais dans tout ça, je ne trouvais pas vraiment mon épanouissement. Il n'y avait rien qui était 100%, où je me sentais 100% à mon aise. Et puis, j'ai une période très compliquée où j'ai tout eu, divorce non désiré. Gros problème professionnel parce que burn-out, plus d'argent, pas de lieu d'habitation, enfin j'ai tout eu en une fois. La seule chose qui donnait du sens à ma vie, c'était l'art. Comme depuis le début de ma vie, c'était toujours ça. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai démarré des carnets de voyage, parce que c'est ce qui me permettait de tenir le coup face à parfois... Enfin, mon premier gros voyage, c'était en Inde, seul. Et sans mon carnet de voyage, je pense que je n'aurais pas tenu le coup. Dessiner, ça m'apaisait, ça me remet... Je dis toujours, quand je dessine, je suis chez moi. C'est le seul moment où je suis vraiment chez moi. Et donc, pendant cette période difficile, effectivement, je me suis dit, OK, là maintenant, j'arrête de mentir. La seule chose qui me tient en vie, c'est l'art. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais y arriver. Ouais. Et donc, c'est vraiment ça qui a été mon moteur. Et je pense qu'à partir du moment où j'ai eu cette... Maintenant, ça suffit. J'arrête de m'encombrer de choses qui ne tiennent pas la route. Je vais y arriver. Je pense que petit à petit, lentement, mais sûrement, les choses se sont mises en place. En fait, j'ai fait de l'auto-édition aussi, et je me rendais vraiment compte qu'en fait, le système du livre n'était pas tenable financièrement. Oui. Parce qu'en tant qu'illustratrice, on est très mal payée. C'est pas facile de faire des livres. On doit toujours se vendre, on doit toujours démarcher. Donc, on a beaucoup de faire de travail en amont sans du tout avoir de certitude qu'on va être payé. Et donc, je me rendais bien compte qu'il y avait un problème dans le système. Donc, en fait, je cherchais un autre support que le livre pour développer mon art, mais du coup, un support qui soit vendu plus cher. Parce qu'il faut, dans des lois commerciales, il faut que ça tienne la route. Quand je vois que des artistes sont vendus à des millions et qu'un illustrateur est payé des clopinettes, ce n'est pas une question de qualité de l'art, c'est une question de système. Donc, c'est vrai que je cherchais un autre support pour exprimer ma créativité. Qui était vital. Et en fait, j'aime bien dire que c'est la soie qui est venue à moi. Ça s'est fait petit à petit. En fait, donc après mon divorce, j'ai eu un compagnon qui m'a un jour offert un carré de soie un peu comme ça. Moi, je me suis dit, ouh là là, c'est quoi ce truc ringard?
Oui, c'est ça, oui. C'est vrai. Mais dans une époque où c'était complètement ringard, maintenant c'est revenu à la mode.
Tout à fait. Ouais. Et donc, dans sa famille, c'était un beau cadeau. Donc voilà, tu dis bon, je vais essayer de me l'approprier. Hein. On va tant qu'à faire. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était très rock. Et c'est vrai que j'ai toujours beaucoup porté de foulard. Donc je me suis dit, en fait, un foulard, c'est bon, peu importe la manière dont on le porte, que ce soit de la soie ou pas de la soie, on s'en fiche. Donc en fait, je me suis rendu compte que c'était assez marrant, un carré de soie. Et puis c'est marrant parce que d'autres personnes m'avaient parlé du carré de soie en tant que support créatif. Mais moi, je me suis dit, mais qui achète des foulards? Enfin, vraiment, en fait, je me suis rendu compte avec l'expérience que c'est vraiment une culture familiale. On a une culture familiale qui porte des carrés de soie et qui ont vraiment la valeur du carré de soie.
C'est vrai.
Et d'autres cultures familiales ou pas du tout. Mmh. Et moi, dans ma famille, j'ai jamais vu personne porter de carré de soie. Donc, je pense que j'avais aussi ce regard assez naïf. Enfin, je veux dire, j'y connaissais rien. Donc, tout était nouveau pour moi. Et donc, je me suis dit, bon, allez, tout le monde me parle du carré de soie. J'ai reçu un carré de soie, je vais essayer de faire un design. Et donc, je me suis dit, je vais le proposer à Hermès, tant qu'à faire. Et donc, je me suis intéressée un peu à l'univers d'Hermès. Je me suis dit, je vais leur proposer un foulard, un design avec un cheval. Et donc, je me suis dit, moi, le cheval, j'aime bien le cheval, mais j'ai envie d'aller vers autre chose. J'ai cherché des légendes ou des trucs sur la licorne, parce que j'aime bien la licorne. Je trouvais que ça avait un côté plus magique. Et en fait, je suis tombée sur un poème de Rainer Maria Rilke à cette époque-là. Et donc, c'était le début de mon couple, et ce poème m'a bouleversée parce que ça parle d'une bête. Il n'utilise pas le mot cheval, ou il dit juste une bête qui n'existait pas, et parce qu'ils l'ont aimé, on ne sait pas qui est ce il, mais ils l'ont aimé, et qu'ils ne l'ont pas nourri que de foin et de je sais plus quoi, et d'eau sans doute, mais qu'ils lui ont donné la confiance d'être elle-même. Elle a pu, en gros, devenir elle-même, et la corne a poussé, elle est devenue la licorne, et elle a pu vivre sa vie.
D'accord.
Etc. Et c'est un poème assez court, mais à cette époque-là de ma vie, il m'a profondément bouleversée. Et donc, j'ai passé un temps incroyable et un amour incroyable dans cette création de foulard. Et j'ai tellement aimé Bon, je l'ai proposé à Hermès, mais bon, j'avais pas d'introduction, etc. Ils m'ont très gentiment répondu, mais ça les a pas intéressés. Mais j'ai tellement aimé faire ce design que je me suis dit, bah, je vais essayer de chercher d'autres poèmes de Rainer ouais. Maria Rilke, voir. Et donc, je me suis inspirée d'autres, j'ai créé d'autres designs. Et puis, je me suis dit, j'avais donc toujours fait des carnets de voyage et j'avais toujours eu des pages de mes carnets où je m'étais dit, ah, ces pages-là, elles sont quand même vraiment sympas. Je devrais en faire quelque chose un jour. Donc, j'ai utilisé ces pages pour faire des designs. C'était en l'occurrence carnet de Martinique. Et donc, à un moment, je me suis retrouvée avec toute une série de designs. Et en fait, je n'avais pas le courage de les présenter à des maisons de mode ou quoi. Je me suis dit, pas envie, comme avec les maisons d'édition, de me faire remballer ouais. ou quoi. Je me suis dit, oh, je vais essayer de voir ce que ça donne sur la soie. J'en ai imprimé quelques designs. Je vais en faire une petite exposition et puis je vais... Basta, quoi.
Oui, ouais, après, on n'en parle plus.
Oui, exactement. Et donc, en fait, pas du tout. C'est-à-dire que donc, j'avais fait un joli événement, ça, c'est vrai. Et j'avais montré tous les designs que je n'avais pas imprimés sur la soie. Et donc, en fait, j'ai eu des commandes de designs non imprimés et je me suis retrouvée avec du stock non vendu. Mmh. Donc, je me suis dit, ah zut, j'ai des commandes, j'ai du stock non vendu, donc il faut que je trouve une autre vente. Et donc, petit à petit, je me suis dit, bah, s'il faut que je trouve une autre vente, il faut que je communique. Et donc, en fait, et puis à un moment, j'ai eu l'opportunité aussi de faire un crowdfunding. Et donc là, le crowdfunding, il m'a poussée à communiquer, à définir une identité de marque, entre guillemets. Mm-hmm. À ce moment-là, je n'étais pas du tout dans une identité de marque. J'étais juste, moi, je fais juste des foulards. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils ont de spéciaux, mais je fais juste des foulards. Mais ça m'a vraiment poussée à comprendre le monde de l'entrepreneur, en fait, en très peu de ouais, temps. Ouais. J'ai dû vraiment, en très peu de temps, développer des outils. Heureusement, mon compagnon est dans le domaine des affaires. Donc, pour lui, il peut vraiment me donner des bons conseils à ce niveau-là. Mais voilà, il faut quand même être dans la pratique du terrain. Et en fait, ce que j'aime vraiment dans le développement du projet, c'est qu'il s'est fait de manière très organique, de vente privée, mmh. d'expérience en expérience, de contact avec le client, etc. Et tout de suite, j'ai eu aussi un webshop sur lequel, au début, je n'avais pas beaucoup de ventes, mais ça m'a permis quand même de montrer, de parler, etc., d'avoir une vitrine. Parce que avant de démarrer dans le foulard, en tant qu'illustratrice, j'avais déjà un site internet parce que je présentais mes activités d'illustratrice, de portraitiste, de tout ce que je savais faire en illustration. Donc, je connaissais l'importance du site internet. Et donc, en fait, vraiment petit à petit, et puis en fait, j'ai démarré en 2019, pardon, et en 2020, il y avait déjà le Covid. Donc là, ça a vraiment changé la donne. Même j'ai eu la chance de continuer à faire des pop-up et notamment Balthazar, qui était un endroit tout à fait magnifique au Sablon. Mm-hmm. C'était pas facile parce que c'était au début il y avait une chouette énergie et puis en fait avec le Covid qui s'éternisait, c'est devenu de plus en plus vide pour différentes raisons et donc c'est vrai que mais au moins ça m'a donné la stabilité d'un endroit, de pouvoir rester à un endroit. Et je me suis rendu compte que c'était vachement utile, en fait, plutôt que de déménager tout le temps d'une vente à l'autre. Et je me suis vraiment rendu compte pendant toute cette période. Et aussi, je pense que parce que pendant le Covid, on avait besoin de contacts physiques les uns avec les autres. Mmh. Et donc, on avait besoin d'aller dans des magasins, on avait besoin de voir des gens, etc. Et donc, là, Balthazar, c'est terminé. Mais avec cette expérience, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose. Et en fait, dès que Balthazar s'est terminé, en 2 soirs, j'ai commencé à chercher. J'ai vu un endroit ici dans les galeries. Je ne savais absolument pas comment en entrer en contact avec les galeries. C'était un endroit beaucoup trop grand pour moi. Mais je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Et donc, j'ai été voir dans les galeries et je suis tombée sur la porte des galeries, des bureaux. Et j'ai préparé un dossier. J'ai été les voir avec mon dossier. J'ai dit, je veux un magasin chez vous. Et alors, celui qui était disponible et qui maintenant ne l'est plus forcément, était beaucoup trop grand. Mais ils m'ont dit, je pense que pour vous, ce serait plus approprié d'avoir un plus petit qui n'était pas encore libre à ce moment-là. Et ils m'ont montré ici et un autre endroit qui se libérait en même temps. Et ils m'ont laissé choisir. et en me disant qu'ils sentaient mieux, parce qu'ils connaissent les galeries, oui. et qu'ils, voilà, qu'on sentait mieux que c'était ici que je serais bien, parce que c'est un peu plus mode dans cette partie des galeries. Et ce qui est très beau, c'est que je me suis vraiment sentie soutenue par les gérants des galeries, parce que j'ai appris par la suite que quand ils ont, en fait, ils doivent accepter les dossiers, et quand ils ont vu mon dossier, c'était à l'unanimité, oui, parce qu'en fait, à terme, il voudrait que les galeries soient une vitrine de, du savoir-faire oui. belge. Et donc j'ai vraiment senti que j'étais vraiment la bienvenue, et encore aujourd'hui, si j'ai des demandes ou des choses, ben, ils essayent de trouver des solutions. Donc ça, c'est vraiment agréable. Et puis aussi, pourquoi je voulais absolument les galeries, c'est parce que je cherchais un endroit avec des touristes, pas une population belge, parce que je sais que mon produit ne s'adresse pas du tout, pas seulement, s'adresse bien sûr à des Belges, mais pas seulement à des Belges. Le foulard a quelque chose de très universel. Et donc voilà. Et maintenant, ça fait donc 2 ans et demi qu'on est dans les galeries.
D'accord.
Voilà l'histoire.
Effectivement, vous auriez pu rester sur le web avec votre vitrine digitale.
Oui.
Le fait d'ouvrir une boutique, pour vous, ça permettait aussi de mieux comprendre les envies ou les.
Moi, j'aime être en contact avec les gens.
Surtout pour ce genre de produit.
Oui,
hein,
parce que j'ai bien remarqué que les gens ont besoin d'essayer, que souvent aussi c'est l'expérience du pop-up qui m'a fait comprendre que les gens ne se décident pas tout de suite. Et parfois, ils ont envie de revenir. Et si on déménage, si on n'est plus là, eh ben, en fait, ils n'ont pas nécessairement gardé ma carte de visite, mais ils se souviennent de là où ils m'ont vue. Et donc, en fait, le rythme du commerçant n'est pas le rythme du client. Et il faut s'adapter au client et non pas au commerçant. Mmh. Donc, il ne faut certainement pas choisir sa propre facilité. Il faut voir ce qui est le plus facile pour le client. D'accord. Et clairement, avoir une boutique physique, pouvoir essayer. Et puis, plus que jamais, je pense qu'on a besoin de l'expérience d'un endroit. C'est ça aussi qui fait le charme des contacts humains, finalement. Hein. Donc voilà, après j'ai eu la grande chance de travailler rapidement avec Léo, qui est toujours là, qui faisait les photos là il y a 2 minutes.
D'accord.
lui en fait, il a été mon stagiaire pendant le Covid, donc à partir de 2021, il a été 2 ans d'affilée mon stagiaire. Et quand j'ai emménagé dans les galeries ici, donc en 2022, je l'ai engagé, donc juste au sortir de ses études, j'ai engagé Christa qui est là aussi, et il y a un an Marina nous a rejoint. Et donc j'ai aussi la chance d'être très très bien entourée au niveau de l'équipe, ce qui fait énormément, parce que aussi j'aime travailler en équipe.
Oui.
Et qu'on a vraiment chacun des compétences différentes, et que je pense qu'on a tous cet amour de l'autre, et ça c'est quelque chose qui, je crois, est un petit peu dans l'ADN, c'est cette envie de que les gens soient heureux.
D'accord. Et justement, quand on rentre dans votre boutique, comment ça se passe? Est-ce que si on vient avec une idée en tête, ça peut être bien sûr, on peut acheter dans la boutique, mais vous faites aussi sur commande.
Comment ça se passe? Alors, le plus facile au niveau des choses sur commande, c'est tout ce qui est peinture sur cuir et principalement sur sac. Donc, soit les sacs que nous avons et qui ne sont pas encore peints, soit amener son sac. Alors, bien sûr, il y a des personnalisations de foulards. Alors, on a 3 niveaux de personnalisation. Soit ajouter un nom, une petite phrase sur un foulard existant. Et donc, ça, c'est assez facile, entre guillemets, comme personnalisation. Là, ça peut être assez rapide, mais en général, je dis compter 1 semaine. On a un autre degré de personnalisation qui est l'adaptation d'un design existant. Alors, quand je dis l'adaptation, ça peut être 2 choses. Soit on aime un design, par exemple, de 60 qu'on voudrait en 90 ou en 120, ou un foulard de 120 qu'on voudrait en 90 ou en 60. Soit un foulard qu'on voudrait un design de foulard qu'on voudrait en kimono ou en poncho ou en robe. Soit alors on a aussi une personnalisation assez sympa que j'ai eu beaucoup avec des animaux de compagnie, c'est qu'on a des foulards de un foulard de chien et un foulard de chat, et les gens en fait sur la base de, du design existant, c'est la base du foulard que les gens auront, mais à ça je rajoute un portrait souvent plus grand de leur chien et ou de leur chat. Et donc ça j'ai déjà fait souvent, et alors là on peut changer la couleur de fond, on peut ajouter des éléments, etc. Je prends l'exemple des chiens et des chats parce que c'est assez facile à comprendre et que j'ai eu plusieurs commandes par rapport à ça, mais ça peut être d'autres, ajouter des designs sur des designs existants, enfin quand je dis des designs c'est ajouter des éléments sur des designs existants, ou alors, et ça c'est la full personnalisation, c'est la création totale d'un design. Ça je l'ai bien sûr fait aussi, mais c'est plutôt pour des entreprises en général. D'accord. Parce que les budgets évidemment sont autres, c'est possible hein, mais voilà, c'est évidemment un tout autre budget, et voilà. Et ça, ça, j'aime beaucoup faire pour des collaborations, notamment des collaborations avec d'autres marques.
Et alors, comment ça se passe au niveau de la création du carré de soie ? Comment vous fournissez d'ailleurs en soie ? Et ensuite, comment ça se passe pour le... Enfin, vous dessinez directement. Comment ça se passe la création d'un...
Alors, la manière la plus facile d'expliquer, c'est... Donc, moi, je parle de ma manière. Hein. Mm-hmm. C'est... Moi, j'aime le contact avec le papier aussi. Et donc, pour l'exemple de mes collections de carnets de voyage, c'est... donc, je dessine dans mes carnets, donc sur papier. Ensuite, je dis que je fais un découpage et un collage de mes propres dessins, c'est-à-dire je découpe chacun de mes dessins, donc je scanne, et alors là c'est toute la partie informatique en fait. Donc je scanne, je retravaille le dessin, je découpe, j'isole des parties de mes dessins, je reprends des parties et je fais un espèce de collage. Je nettoie aussi beaucoup mes dessins, c'est l'air de rien, le travail sur papier demande beaucoup de nettoyage. Et ensuite, une fois que j'ai un fichier informatique, j'envoie à mon fournisseur en Italie et lui, il l'imprime sur la soie. Alors, d'accord. L'impression, c'est, j'ai déjà été voir les usines, c'est un très long processus avec beaucoup de machines. Je ne vais pas dire que j'ai compris par tous les stades par lesquels ça passe, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc, en gros, pour comprendre que c'est un long processus, entre le moment où je passe la commande et le moment où je reçois la commande, il faut compter minimum 4 semaines. Donc, il a tout un travail, parce qu'en plus, il a le travail du reloté main, ce qui fait que aussi, chaque foulard prend le temps d'être rouloté à la main, donc c'est l'air de rien, donc c'est plutôt qu'un ourlet cousu à la machine où l'ourlet est tout plat, il y a des dames qui vraiment tournent la soie et elles font chacun des points à la main, et donc ça prend beaucoup de temps.
D'accord.
Voilà, ça c'est le processus.
D'accord. Et alors, vous avez des carrés de soie et ensuite vous avez aussi tout ce qui est... kimono,
tout à fait.
Donc ça, c'est des choses qui sont arrivées par la suite ou suite à une demande ?
Alors, j'ai démarré en fait avec les foulards de 90 et de 60 au départ. J'ai vite compris que dans le domaine du commerce, c'était bien d'avoir des gammes de prix différentes. Donc, j'ai fait le Nastrito ensuite. Et puis, je ne sais plus très bien comment, j'ai eu envie de faire des vêtements aussi à partir de mes foulards de carré. Là, du coup, j'ai développé, je pense, les tuniques que pour le moment, je ne fais plus, mais que j'ai développées en robe. C'est le même principe au niveau de la couture, c'est simplement que la robe, elle est plus longue. Là, c'est deux carrés, un devant, un derrière, avec des coutures la place pour mettre une ceinture. Ensuite, j'ai donc les ponchos et les tuniques. Et puis après, j'ai développé les grands foulards. Et les kimonos sont venus, je pense, en même temps que la boutique. Et les sacs sont venus en même temps que la boutique. Et après, il y a eu les bracelets aussi. On fait des bracelets là en résine.
C'est très...
Avec la boutique, on a commencé les masques aussi. Oui, voilà, c'est à peu près ça.
D'accord. Et pour les bracelets, c'est la même chose, c'est vous dessinez avant et
voilà.
Ensuite, c'est
imprimé sur la résine. Oui.
D'accord.
Oui, tout à fait.
Et pour le, en revanche, pour les sacs, c'est fait directement sur le sac.
Voilà, ouais. Là, c'est fait directement ouais. sur le sac. Et mmh. Donc là, je les achète aussi en Italie. Donc, c'est des cuirs de vache. Donc, c'est conçu en Italie. Mmh. Et alors, moi, je peins ici à l'atelier.
D'accord.
Ici en haut.
Et au niveau de vos fournisseurs en Italie, vous les avez trouvés comment ? C'était via du bouche à oreille ? Vous avez visité plusieurs...
Alors, j'ai eu... mon premier fournisseur a été en France. J'ai une très mauvaise expérience avec ce fournisseur. Je n'ai pas du tout aimé. Donc, j'ai rapidement cherché. Donc, bouche à oreille, j'ai trouvé un autre fournisseur avec lequel j'avais un super contact, vraiment. Donc, en Italie, là, cette fois-ci, j'aimais beaucoup. J'ai travaillé, je pense, un an ou deux avec eux. Et puis, il se fait que, un peu par hasard, j'ai découvert un autre fournisseur. Et autant je suis quelqu'un de fidèle, autant si la qualité est meilleure d'un autre côté, il n'y avait vraiment pas photo. Ouais. C'était mille fois mieux de l'autre côté. Et donc, voilà, j'ai arrêté avec l'autre fournisseur. Voilà, pour simplement une question de qualité. Et après, maintenant, j'ai une super relation avec cet autre fournisseur. Hein, ça se passe très bien.
D'accord.
Donc, je suis ravie. Et là, ça fait maintenant 3-4 ans que je travaille avec lui, depuis avant l'ouverture de la boutique.
Ok. Et les dessins que vous faites, c'est vous les faites sur papier, mais... vous les faites au crayon ou à la peinture ou...
Alors, moi, je travaille... Moi, c'est toujours un mix de techniques.
D'accord.
Donc, ce n'est pas une technique. Avec le temps, en fait, j'ai... Donc, j'aime toujours bien prendre l'exemple de mes carnets de voyage parce que c'est le plus parlant et que, grosso modo, j'utilise un petit peu, grosso modo, les mêmes médias. Parce que pendant mes études d'illustration, j'ai vraiment utilisé une quantité de techniques... infini, j'ai vraiment voulu tout essayer je me suis rendu compte que moi ce que j'aimais c'était les techniques qui me permettaient de la spontanéité et de la facilité d'utilisation et aussi de la facilité d'utilisation parce qu'en voyage on a besoin de savoir transporter son matériel. Alors mon sac est quand même conséquent mais je sais le transporter, c'est-à-dire que j'ai des aquarelles de voyage ou pas de voyage, mais en tout cas toujours la capacité à ce que ça se remballe et se ferme vite. J'ai des bics, j'ai des feutres, j'ai des crayons, j'ai des fluos, j'ai des marqueurs pinceaux, j'ai du Tipex, j'ai de la colle, des ciseaux. Donc c'est, entre guillemets, vulgairement parlé, c'est du matériel de bricolage, entre guillemets, mais de qualité.
Oui, c'est ça.
Voilà.
C'est toujours ça, c'est d'avoir des outils et du matériel de qualité.
Voilà.
Faire du bon travail.
Voilà, exactement. Et donc, j'ai tous mes petits sacs que je trimballe sur moi. J'ai mon carnet et donc, je me balade avec tous mes petits sacs. Le sac des fluos, le sac des bics et des crayons, le sac des aquarelles.
Ça prend un peu de place dans
la valise. Ça prend un peu de place, mais c'est facile parce que du coup, j'ai tous mes petits sacs sur moi.
D'accord. Donc, voilà. Vous, votre carnet de voyage, il est rempli de dessins.
Ah, là, je l'ai tout le temps. Je l'ai non-stop. Je l'ai quand je vais manger, l'ai quand je voyage, je l'ai quand je suis... Parce que mine de rien, dans les voyages, on ne se rend pas compte, on perd beaucoup de temps à attendre dans des transports, dans des bazars, dans des trucs. Moi, je m'embête vite, hein, ça c'est vrai. Et du coup, je profite de tout ce temps pour terminer un truc. Mais donc, je vais vite pouvoir ranger aussi. Donc, voilà.
D'accord. Ok. Et alors, est-ce que vous avez des rituels ? Est-ce qu'il y a des moments, en fait, dans la journée où vous créez plus que d'autres ou ça dépend de vos envies, de vos inspirations ?
Les envies et les inspirations, elles ne manquent jamais. Ce n'est pas le problème. C'est qu'avec une casquette d'entrepreneur, il faut aussi gérer beaucoup de choses. Nécessaire, je vais dire, pas toujours facile, parce qu'on doit comprendre beaucoup de choses sur beaucoup de... Non, on ne doit pas nécessairement... Enfin, on ne peut pas avoir la science infuse, ça c'est sûr, mais on doit prendre les renseignements sur beaucoup de domaines différents, que ce soit administratif, financier, même en... La Belgique, c'est un casse-tête, parce qu'il y a les régions, les bazars,
les
trucs...
C'est
très compliqué. Donc, il faut vraiment s'entourer de professionnels capables de nous donner les bonnes informations, et malheureusement, même parfois, les professionnels ne s'en sortent pas. Donc, je dirais que c'est plus en fonction des contraintes, des réalités d'entrepreneurs que j'ai du temps. Moi, quand j'ai du temps pour créer, moi, je fais tout ça pour dessiner. Hein.
Ouais.
C'est parce que c'est ce que j'aime. Donc, moi, c'est le temps béni quand je peux dessiner. Donc, je n'ai pas spécialement des moments où je dessine mieux que d'autres. Je peux dessiner tout le temps, moi.
Oui, c'est ça.
Oui.
C'est, vous arrêtez pas si on vous arrête pas.
Non.
Ouais.
Non, voilà. C'est ça.
D'accord, il n'y a pas un moment dans chaque jour de la semaine où vous dites...
Non, c'est vraiment en fonction des réalités de la journée, des semaines, des contraintes, de ceci, de cela. Pour moi, c'est pour ça que le carnet de voyage, j'en parle tellement, c'est que pour moi, c'est vraiment le souffle d'air frais. Parce qu'à ce moment-là, je trouve que dans le voyage, il y a un truc qui me fascine, c'est que tout paraît plus beau, plus goûteux, plus fascinant, plus émerveillant. Tout est plus magique quand on voyage parce qu'on découvre, en fait. On est dans cet esprit d'émerveillement, d'ouverture. Et en fait, cet émerveillement, je pense que j'étais tellement frustrée de ne pas savoir le capter par la photo. Et puis, les photos, ça se perd. Enfin, voilà. Que je crois que j'ai eu besoin de les garder par le dessin. Le dessin, je savais mieux retranscrire ce que je ressentais. Et ce que j'aime bien dans le carnet, c'est que ça fait des éléments plic-ploc qui s'additionnent les uns avec les autres. Et donc, ouais, c'est ça qui est vraiment mon souffle. Et là, vraiment, je le dis, je dessine tout le temps, quoi.
Oui, puis le dessin par rapport à la photo, qui est aussi un très bel art.
Bien
le
sûr.
Le dessin, on prend... faut faire marcher ce qu'on... C'est à partir de ce qu'on voit, mais on fait marcher notre imagination.
Tout à fait.
On prend plus de temps, on se pose pour le faire. Une photo, bien sûr, on va regarder l'angle, la luminosité, etc. Mais ça, c'est plus rapide, on va dire.
Tout à fait. Et j'aime beaucoup ce que vous dites par rapport au fait qu'on se pose.
Ouais.
Parce qu'en fait, quand on se pose pour dessiner, on entend les bruits autour de soi, on entend les dialogues, on entend les ambiances, on sent les odeurs, on sent le soleil qui change, on sent des tas de choses. Et en fait, moi, en tout cas, quand je dessine, je capte beaucoup plus d'informations de mon environnement que quand je suis à faire des tas d'autres choses.
Ouais, ouais.
Et en fait, ça m'aide à... C'est comme ma manière de comprendre le monde que de dessiner. Parce qu'aussi, observer précisément un élément du pays dans lequel on est, ça donne déjà beaucoup d'informations sur son histoire, sur sa manière d'être construit, sur les relations. Dessiner des gens aussi, ça donne beaucoup d'informations. Dessiner des paysages, enfin... On a vraiment besoin de faire travailler son esprit pour comprendre les liens entre les choses. Et donc, c'est vrai qu'en fait, je capte énormément d'informations à travers tout ça. Et c'est ça que j'aime dans la collection de mes foulards carnets de voyage. C'est parce qu'en fait, grâce au carré de soie, je peux faire une espèce de synthèse de mon carnet de voyage. Et c'est pour ça que je termine toujours chacun de mes designs de carnet de voyage ou pas de carnet de voyage par un texte qui donne un petit peu l'esprit de ce que j'ai voulu transmettre par le design.
Ouais, ouais. Ben, on en vient à raconter une histoire.
Voilà, exactement.
C'est peut-être votre passé d'illustratrice, etc.
Tout à fait. Tout à fait.
Sur le devant de la scène.
Et puis, je pense que la mise en mots est pour moi l'élément final de... Parce que souvent, je ne sais pas exactement vers quoi la création va me mener. Je dis toujours qu'il y a deux manières de créer. Soit on sait à l'avance ce qu'on fait et on réalise son idée. Soit on a une vague idée ou juste une émotion ou quelque chose. Et en fait, la création va nous guider. Et on ne sait pas du tout quel sera l'aboutissement. Et souvent, je suis plutôt dans le deuxième cas de figure.
D'accord. Et bon, alors, j'ai cru comprendre, je crois connaître la réponse, mais vos sources d'inspiration.
Mes sources d'inspiration, clairement, les voyages, la littérature. Avec les galeries, on a développé notre ligne de Belgique. On avait déjà quelques designs belges, mais là, c'est vraiment assez fort demandé. Et c'est très amusant parce que c'est vrai que je suis vraiment belgo-belge. Et c'est vrai que la Belgique est tellement... Alors, c'est très charmant parce qu'ici, dans les galeries, on a évidemment beaucoup de touristes. Forcément oui. Un voyage. Donc, ils aiment Bruxelles. Oui. Et donc, on a tous ces retours super enthousiastes sur Bruxelles, ce qui fait beaucoup de bien aussi par rapport au climat ambiant, que parfois au niveau politique, à plein de niveaux, on se dit ouf, mon Dieu, non, voilà. Et puis, on est ici, on voit tout cet émerveillement de la part des gens, donc c'est très savoureux.
C'est vrai, il y a une autre. une autre ambiance parce que moi, j'habite pas très loin, mais à Saint-Gilles, et c'est pas le cœur touristique de Bruxelles.
Tout à fait.
Et quand je viens, déjà, il y a du monde, ça parle toutes les langues. Et c'est vrai qu'il y a une effervescence qu'on n'a pas forcément dans notre quartier.
Tout à fait. Mm-hmm. Et c'est vrai que c'est très... moi, j'aime énormément cette ambiance.
Ouais.
J'ai toujours l'impression qu'on voyage, nous, à travers la boutique, à travers tout ce que les gens nous racontent, parce qu'on parle toujours un peu avec nos clients. Et donc, oui, forcément, mes inspirations, donc, j'ai dit la poésie, la littérature, les légendes, parfois juste des thèmes qui me viennent. Je me base aussi sur ce que les... Donc là, par exemple, on a développé une collection astrologie. Là, ça, c'est quelqu'un qui m'en a donné l'idée. Et en fait, j'aime l'astrologie aussi. Je trouve que c'est un sujet hyper intéressant. Donc, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de temps à faire cette collection. Elle a vraiment mis du temps à sortir. Et maintenant, je suis ravie parce qu'on a vraiment pu trouver une cohérence. Donc, il y a des sources diverses. Les animaux, évidemment, la nature en général. Je trouve que c'est une source d'inspiration extraordinaire. Donc, principalement, nos collections, c'est les carnets de voyage, poésie. On a le royaume des animaux et on a Belgitude et astrologie. Ça, c'est nos
D'accord.
collections, principalement.
D'accord. OK.
Voilà.
Et alors, il y a quelque chose que vous dites, j'ai regardé un peu votre site, etc., sur tous les grands maîtres de l'art l'ont fait, esquisser le réel pour s'approprier le monde et le rendre selon sa patte personnelle. C'est ce que vous essayez de retranscrire dans
oui,
votre création.
Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, ce que j'aime beaucoup, autant le métier d'entrepreneur n'est pas facile, autant je pense qu'il correspond très bien à mon caractère parce que j'aime avoir un résultat direct, j'aime ne pas être dépendant des éditeurs, d'être tout ça.
Oui,
et en fait, ma créativité, donc ce que j'ai envie de raconter est beaucoup plus libre. Donc c'est moi qui décide les designs que je fais et c'est clairement à l'écoute des clients. Mais pas uniquement. Au final, c'est moi la décideuse de ce que je décide de créer.
D'accord.
Et puis, j'aime beaucoup que l'art soit utile. Parce que moi, j'ai un père ingénieur. Et donc, quand il a compris que je voulais me destiner à l'art, il m'a dit, mais l'art, Roselyne, ça sert à quoi?
Ça sert à s'émerveiller.
Voilà, exactement.
Plus beau.
Donc, heureusement, depuis, il a évolué. Mais c'est vrai que j'ai pris une claque quand j'ai compris ça. Donc, c'est vrai. Je pense que j'ai... À ce moment-là, ça a été dur à avaler. Aujourd'hui, je pense que ça a été un moteur pour... C'est pour ça que j'aime aussi, je crois, beaucoup le Japon, parce que toutes leurs formes d'art sont utiles. Et je crois qu'en fait, au fond de moi, ça me correspond plus. Parce que j'aime qu'un foulard, je dis, c'est entre objets d'art et accessoires de mode, parce que j'aime qu'on puisse porter un foulard ou qu'on puisse l'exposer. Mmh. Voilà.
Mmh.
Les deux sont possibles.
Et d'ailleurs, j'ai vu que vous faites aussi des pièces pour hommes.
Oui, on a quelques pièces pour hommes, donc principalement des pochettes, des ascottes. Après, moi, je dis que le foulard est pour tout le monde. Hein. Je veux dire, pour moi, historiquement, ce n'est pas spécialement féminin. Les hommes en portaient, c'était plus masculin. Mais avec le temps, avec les époques, avec les changements, avec, heureusement, la créativité pour le vestiaire des hommes qui est en train de se redévelopper, je pense que ça va changer, mais c'est lent. Parce qu'on a quand même plus de liberté en tant que femme au niveau de ce qu'on met. Hein.
Donc, c'est vrai que vous avez raison, quand on regarde dans les bouquins d'histoire, etc., les hommes avaient souvent un foulard.
Oui, de soie.
Ouais, ouais.
Et en fait, l'origine du carré de soie, c'est notamment les soldats français, je ne sais pas si c'est Napoléon ou avant, ou peu importe, en tout cas dans certaines guerres, les soldats avaient un carré de soie avec les instructions de comment guérir, les premiers soins à donner à ceux qui étaient blessés, parce qu'ils étaient analphabètes, c'était fait en dessin. Et donc, en plus, comme la soie a des propriétés tout à fait...
Oui.
C'est le seul tissu, le pH de la soie est similaire au pH de la peau. En plus, c'était le premier pansement qu'ils mettaient sur les blessures.
D'accord.
Et donc, c'était ultra bien toléré par la peau, parce que c'est d'ailleurs c'est pour ça qu'à l'époque du Covid j'avais fait des masques en soie, donc des masques de Covid en soie, pas des masques de nuit, parce que j'étais outrée de voir qu'il y avait des gens qui avaient la peau abîmée à cause de ces choses qui étaient en train censées nous protéger. J'avais une amie qui était en service d'urgence, qui avait des marques sur la, enfin qui avait vraiment des blessures sur la peau à cause de tous ces masques qu'elle devait porter. Donc je me suis dit, c'est une aberration. Et donc j'ai fait des masques de Covid en soie et ça c'était doux pour la peau, quoi. C'était hyper agréable à porter. Donc,
rêche que les,
voilà,
les
voilà.
Masques qu'on pouvait acheter en pharmacie.
Voilà, tout à fait.
Et alors, pour, est-ce qu'il y a d'autres personnes ici en Belgique qui font comme ça, du dessin sur soi?
Alors, il y a d'autres marques qui font des foulards.
Oui,
des foulards. Alors, beaucoup, c'est des... Nous, on a vraiment des matières pures, c'est-à-dire c'est soie, cachemire. Pour le moment, on se limite à soie et cachemire. Souvent, c'est des mélanges. On n'a pas une autre personne qui fait exactement la même chose. Mmh. Il y a d'autres personnes qui font des foulards, mais pas exactement la même chose.
D'accord.
Non.
Et alors, ce
enfin, pas à ma connaissance.
Quelles seraient les qualités pour quelqu'un qui se décide de se lancer dans ce beau métier?
Alors, le métier d'entrepreneur ou le métier de créateur, d'artiste,
bah de
quoi?
De créateur, plutôt, de faire quelque chose qui est quand même atypique. Donc,
Je pense que c'est toujours délicat de trouver le juste équilibre entre la sécurité et l'audace. Je dirais que c'est le plus gros challenge, c'est cet équilibre-là. Et ça, c'est valable autant pour les créateurs artistes que pour les créateurs entrepreneurs.
D'accord.
Ouais, je trouve que c'est se trouver le, l'équilibre entre ça.
D'accord. Est-ce que... au niveau de ce type de dessin, tu es autodidacte, tu t'es pas formée?
Non, je suis formée à l'illustration.
Ah, oui, à l'illustration, mais après, est-ce qu'il y a des techniques quand même à avoir pour dessiner?
Après, c'est l'expérience.
Ouais, c'est ça. Hein.
C'est l'expérience. Ouais. Dessiner. Il n'y a pas d'autre solution.
Ouais.
On découvre son propre langage,
oui, c'est
en
ça.
Fait.
C'est comme dans tout métier d'art. Hein.
Tout à fait.
Faire.
En fait, on développe sa patte. On développe.
Exactement.
Parce qu'en fait, plus on a de l'aisance, plus on a des automatismes, moins on a besoin de réfléchir. C'est comme conduire une voiture. On développe des automatismes, on développe des facilités. Et donc, on a un espace de liberté qui s'agrandit à partir du moment où on a des automatismes qui sont ancrés.
Quel type de défi vous avez pu rencontrer, en fait, soit dans l'ouverture de la boutique ou dans le fait de vendre ce que vous faisiez? Enfin, est-ce qu'il y a eu des choses un peu plus difficiles que d'autres ou tout s'est bien mis comme,
Non, il y a beaucoup de choses difficiles. En même temps, j'ai une bonne étoile, donc tout est relatif. Je dirais que pour moi, vraiment, je trouve que ce qui est vraiment le plus difficile, c'est que c'est pas... Il y a beaucoup de gens de bonne volonté dans beaucoup de domaines, que ce soit dans les domaines d'administration, fonctionnaires, tout ça. Donc, il y a vraiment beaucoup de gens qui veulent aider, mais je me rends compte que les systèmes sont parfois tellement complexes, lents, etc., compliqués, que je trouve qu'on a un système qui est... plus adapté, ça je trouve que c'est la chose la plus compliquée.
Ouais.
C'est s'y retrouver dans tous ces domaines administratifs tellement nombreux qu'il y a... ça je trouve que c'est le plus gros défi au quotidien. Un gros défi aussi en ce moment, c'est le manque de gouvernement à Bruxelles. Ça c'est vraiment pas facile parce que là par exemple je pars en mission économique princière en Californie avec la délégation belge. Alors on est belge mais pourtant on est régionalisé entre flamands, bruxellois et wallons.
Ouais.
Et donc nous bruxellois n'ayant pas de gouvernement, on n'a pas de subsides. La Wallonie et la Flandre ont des subsides, mais nous, à Bruxelles, pas. Et donc, c'est une aberration. Ça n'a aucun sens. On est une délégation belge pour représenter la Belgique à l'étranger et on n'est pas du tout soutenu de la même manière. Donc ça, déjà, alors, moi, j'ai fait le choix de... Parce que je crois vraiment... une grande partie de nos clients sont américains. Je sais qu'on a... que notre produit est très apprécié par les Américains. Et donc je me suis dit, c'est une opportunité, il ne faut pas que je la rate. Donc voilà, malheureusement, je dois prendre ça sur mes épaules.
Et vous allez faire quoi là-bas?
Alors, on aura évidemment des événements organisés par la délégation belge, avec et sans la princesse Astrid. Et puis, on aura... Donc, le but, c'est aussi de développer du réseau, donc d'avoir des rendez-vous en B2B avec... alors, nous, nos objectifs, c'est de développer, évidemment, de trouver des points de vente de niche aux États-Unis. Donc là, c'est la Californie dans laquelle on va, mais peut-être... c'est pas parce que c'est la Californie qu'on ne cherche qu'en Californie. C'est de développer des collabs et, si possible, et développer tout ce qui est contact avec tout ce qui est communication. Donc, ça peut être de la presse, ça peut être des podcasts, ça peut être des blogs, ça peut être des influenceuses, ça peut être des stylistes au sens des Américains, c'est-à-dire les stylistes aux États-Unis, c'est des gens qui habillent des personnes fortunées. Ouais. Donc, ça, ce serait le rêve, c'est d'avoir un contact avec un styliste pour ses clients. Donc voilà, c'est développer un réseau là-bas pour pouvoir petit à petit... le rêve, ce serait d'ouvrir une boutique aux États-Unis. Hein, faut pas... Voilà, ce serait génial. Mais une chose à la fois, et de nouveau, par rapport au juste équilibre entre sécurité et audace.
C'est vraiment ça. Et là, vous partez à plusieurs,
créateurs à partir. On est pas beaucoup de créations. Je crois que je suis une des seules dans la création. D'accord. C'est surtout des entreprises. D'accord. Beaucoup dans, je crois, dans tout ce qui est construction, etc. Mmh. Donc, c'est toutes des entreprises belges de différents domaines. J'avoue que je ne sais pas encore très bien. Je sais qu'on est quand même assez nombreux, mais je ne sais pas très bien. La semaine prochaine, on a une réunion. Et là, j'imagine qu'on va un peu mieux comprendre. Mais bon, ils n'ont rien fait pendant les vacances d'été, ce qui est assez normal. Et les inscriptions étaient jusqu'à fin juin. Donc, d'accord. On va avoir une première réunion et puis on va partir. La délégation, c'est du 4 au 12 octobre, mais je pars deux jours avant.
D'accord.
Voilà.
OK. Et j'imagine que les Américains doivent être assez... déjà, ils aiment beaucoup tout ce qui est l'art, tout ce qui vient d'Europe.
Absolument.
Et ils vont être sûrement assez intéressés par ce que vous faites, parce que c'est quand même des
choses... Tout à fait.
Ils sont assez passionnés par le fait main. Enfin, j'ai une petite expérience... quand j'étais étudiante, vu que j'aimais l'art déjà à cette époque, j'avais fait un stage dans une galerie d'art.
D'accord.
Et ça, les gens étaient toujours passionnés par les artistes qui venaient de France ou d'ailleurs, ou européens, italiens, oui.
D'accord.
Et je pense que c'est des gens qui n'hésitent pas à... ils regardent le savoir-faire et s'il faut, ils mettront le prix pour avoir la pièce.
Oui. Donc, je pense que oui.
Je pense que c'est un bon marché, oui, effectivement.
Oui, je pense vraiment que c'est un bon marché. Moi, ce que j'aime beaucoup, ça c'est d'un point de vue plus relationnel. Il y a beaucoup de gens qui critiquent comme les Américains sont très expressifs et que parfois, ils disent des tas de trucs et puis ça ne tient pas la route. Oui. Parce que nous, dans nos valeurs, on ne dit pas des choses sans les tenir. Oui. Tandis que là, c'est vraiment une manière d'exprimer leur joie ou leur plaisir ou n'importe quoi. Il faut juste savoir que c'est une autre manière de s'exprimer.
C'est une autre culture.
C'est une autre culture. Mm-hmm. Mais moi, je trouve ça très chouette parce que c'est génial ce côté d'être tout le temps émerveillé, etc. Donc... j'aime assez bien, moi, leur côté émerveillé, enthousiaste.
Oui, puis faut savoir que les... ils n'ont pas forcément beaucoup... Enfin, ils en ont, mais des designers avec vraiment une finesse de travail, ça... Je pense que c'est pour ça que l'art de l'autre côté de l'Atlantique les attire.
Et puis, je pense qu'une des choses qui les attire, c'est toute l'histoire que l'Europe a.
Ouais, c'est ça.
L'Europe a tellement d'histoire. Et puis, mine de rien, les États-Unis viennent d'Europe.
Ouais. Alors,
je veux dire, leurs racines sont en Europe. Donc,
Mais c'est vrai, l'histoire, le vieux continent. L'histoire du vieux continent, donc effectivement. D'accord. Et puis, je crois savoir... Vous parliez de la princesse Astrid, elle est assez férudard aussi. Elle aime bien promouvoir. Enfin, j'avais entendu dans un autre podcast que j'avais interviewé quelqu'un qui lui avait fourni des pièces.
D'accord.
Ouais.
Je vais découvrir. Je la connais pas vraiment. C'est vrai qu'en fait, nos objectifs, c'est de développer notre clientèle belge, notre clientèle américaine forcément et étrangère en général, et puis développer nos contacts avec la famille royale. Ça fait vraiment partie de nos objectifs.
D'accord.
Avant la mission. Enfin, avant que je ne m'inscrive à la mission, c'était déjà nos objectifs. Et donc, c'est pour ça que cette mission remplit tous ces aspects. Et donc, c'est pour ça que j'ai senti l'importance de le faire et que je me suis dit, non, je ne peux pas rater ça, et gouvernement ou pas gouvernement.
Oui, j'y vais.
Oui, c'est ça. Après, c'est un risque, mais c'est vrai que c'est frustrant de se sentir bloqué parce que c'est ça, mais c'est d'autres choses aussi.
Oui,
hein.
Oui.
On le sent. On le sent vraiment à beaucoup de niveaux. Et voilà, mais bon, il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans des circonstances difficiles, donc on ne va pas enfoncer le coup.
Oui, oui, oui. Oui. Et justement, ici, votre clientèle principale, ce sont des étrangers.
Alors, c'est très intéressant parce que depuis quelques mois, on a commencé à faire des statistiques vraiment plus poussées. Et je suis très heureusement, parce qu'entre ce qu'on a l'impression et les statistiques réelles, il y a toujours un pas. Je suis très heureusement surprise de me rendre compte qu'en fait, la clientèle belge est plus nombreuse plus nombreuse que je ne le pensais. Après, peut-être que ce qui est impressionnant, c'est que l'Américain, il ne va pas hésiter à dépenser beaucoup en une fois. Et donc, c'est peut-être aussi ça qui nous donne l'impression qu'ils sont très nombreux. C'est vrai qu'on en voit beaucoup et que c'est vrai qu'ils n'hésitent pas, contrairement à des cultures asiatiques où ils vont dépenser moins. Ils vont peut-être acheter une pièce. Et donc, on fait des statistiques. Et donc, c'est vrai que la clientèle belge est une partie, mais une grosse partie est une clientèle étrangère.
D'accord.
Oui.
Et justement, ici à Bruxelles ou en Belgique, est-ce qu'il y a un réseau d'artisans, de créateurs, où vous vous réunissez de temps en temps pour discuter soit de vos défis ou de vos réussites ou pas du tout?
Non, malheureusement, non. Pas à ma connaissance, en tout cas. Ce qui est chouette, c'est que de temps en temps, on a des réunions avec les galeries, mais là, c'est plus pour avoir un peu des nouvelles de leurs avancements sur différents sujets. Mais non, il n'y a pas vraiment de réunion. Ce qu'on fait, c'est plutôt des réunions d'équipe. Et ça aide beaucoup parce qu'on est chacun sur des domaines différents. Et là, vraiment, on est au cœur du projet.
D'accord. Et j'ai vu aussi que vous aviez fait des collaborations avec notamment la marque belge Nathan, si
oui,
je ne me trompe pas.
Tout à fait.
Et comment ça se passe? C'est eux qui viennent vers vous et qui vous demandent quelque chose, et c'est plutôt...
C'est souvent une rencontre un peu des deux, quoi. Quelque chose qui clique. Et là, c'est un petit peu ce que je fais comme dans toute création, c'est m'imprégner de l'univers d'une marque ou de quelque chose et de le développer à travers mes outils. Et comme je pense que j'ai une capacité à sentir des tas de petites choses qui parlent, donc voilà, je résume ça dans un design de carré de soie.
D'accord. D'accord.
C'est principalement ça. Après, j'ai fait une collab qui n'était pas sur de la soie avec Sisley. Oui. Mais moi, je reste illustratrice. Donc, que ce soit une impression sur soie ou une impression... Oui. Là, c'était un coffret de luxe, comme le coffret Éole qui est là. Là, c'est Sisley, là, c'est Éole. Donc, Champ d'Éole, il y a deux choses. Ils ont reçu le prix des meilleures bulles du monde hors région de Champagne. Donc, ils ont des vignes. Et alors, avec les vignes, ils font des cosmétiques. Ils ont un domaine avec un restaurant au milieu des vignes, etc. Et ça, c'est à Mons. C'est un super endroit, des super entrepreneurs aussi à interviewer. Et donc, que ce soit Sisley ou Eol, là, on a fait le coffret qui est une édition limitée. La firme niche, là, c'est effectivement un carré de soie plus la boîte qui est personnalisée pour eux. Et là, c'était pour leur 125 ou 150 ans, je pense. Nathan, on a fait deux carrés de soie et deux de taille de 90 et un de 40 et deux de 45. Donc voilà, après on a fait aussi avec Degas, on a fait avec Dior, avec Guerlain, on a fait différentes choses.
Donc avec des belles maisons, quoi.
Oui, tout à fait.
D'accord. On arrive à la fin
Super.
de ce bel échange. Alors j'ai encore quelques petites questions.
Avec
Où
plaisir.
Je vais vous demander de me répondre assez rapidement à l'instinct. Est-ce qu'il y a tous les jours, dans votre défi d'entrepreneur ou de créatrice, est-ce qu'il y a une citation qui vous parle plus qu'une autre, qui vous
Oui.
donne envie d'avancer ou...
Oui, il y en a une qui me drive depuis longtemps, c'est « Il ne t'est jamais donné de rêve sans le pouvoir de le réaliser » de Roald Emerson, je crois. Et pourquoi j'aime tellement cette citation, c'est parce que il ne t'est jamais donné de rêve. Donc il y a le mot rêver, il y a l'imaginaire, sans le pouvoir. Et donc là, ça fait vraiment appel à la force,
Oui.
sans le pouvoir de le réaliser. Et le réaliser, c'est vraiment la mise au monde. Et donc je trouve qu'à travers une phrase, il a réussi à résumer vraiment le stade de passer de l'idée à la mise au monde. Et je trouve que
D'accord.
cette phrase est... Et puis, je trouve que le pouvoir a vraiment ce truc où il faut vraiment aller chercher le feu à l'intérieur de soi, quoi. Il faut aller vraiment chercher,
Oui, c'est
aller
ça.
dans ses tripes, quoi. Et c'est pas, voilà, c'est pas toujours facile.
Non, mais effectivement, quand on le sent, comme vous disiez au début de l'interview, une fois que ça s'est mis en place, tout était, enfin,
Ça s'est mis
pas
petit à
fluide,
petit.
mais organique
Tout à
pour que ça
fait,
se fasse.
parce que mon objectif était clair, je ne voulais plus perdre mon temps avec tout ce qui me bouffait de l'énergie. Et la seule chose qui me donnait de l'énergie, et dans une période dure, l'avantage, c'est qu'on n'a plus de force pour ce qui nous encombre. On n'a plus que la force pour faire ce qui nous donne de la force.
D'accord. Est-ce qu'il y a une création dont vous êtes particulièrement fière aujourd'hui?
Dans tout... Oula, non.
Il y en a beaucoup.
Tout et rien. Enfin, je pourrais parler sur tous. Je dirais que c'est comme une maman, dites-lui quel enfant elle préfère, quoi.
Mais non, elle les aime chacun à leur façon.
Oui, c'est ça. Chacun ses différences.
D'accord. Non, mais oui, j'aime beaucoup la comparaison. Est-ce qu'il y a une matière que vous préférez travailler plus qu'une autre?
Moi, j'aime beaucoup de choses. Je pense que là, je vais... Parce que j'ai fait de la sculpture, j'ai fait des tas de choses aussi. Et en fait, donc pourquoi la soie? C'est parce que j'aime en fait sa légèreté aussi. Et ça, j'aime vraiment beaucoup. Et c'est pour ça que le carnet de voyage, j'aime, parce que c'est léger, c'est facile, c'est transportable. Donc en fait, j'aime les matières qui sont faciles. La terre, j'ai adoré en faire, mais qu'est-ce que c'est compliqué. Après, la cuisson, le transport, le bazar, le truc. Donc, le moment de la création est une chose, le moment de tout ce qui entoure la création en est une autre.
D'accord. Est-ce que vous avez une pièce fétiche?
Une pièce fétiche? Non, je ne suis pas très fétichiste.
Non, non. Est-ce que quelle est votre couleur préférée?
Oh, toutes. Je les aime toutes. Ça dépend des jours, ça dépend des périodes de ma vie, je
Oui,
dirais.
c'est ça. Oui, mais ça, c'est vrai. Puis ça dépend de oui, si le soleil est là ou pas,
Oui, parfois
si
j'ai
on
besoin de
est
beaucoup de
bien réveillé ou
couleurs.
pas.
Oui, parfois j'ai besoin de beaucoup de couleurs, parfois j'ai besoin de très peu. Après, je sais qu'il y a des couleurs qui ne me vont pas par ma typologie, mais parfois j'ai besoin de mettre du noir. Je sais que le noir ne me va pas, mais parfois j'ai besoin de mettre du noir. Donc voilà. Parce que je pense que de plus en plus de monde est au courant de sa typologie et c'est bon de le savoir. Mais après,
C'est
parfois
bon de
on
le
a une
savoir, mais
couleur
faut...
intérieure.
Exactement.
On a parfois aussi le truc où on a besoin d'une couleur. Voilà.
D'accord. Est-ce qu'il y a un art qui vous émeut plus qu'un autre?
Eh ben, j'en parlais au début, c'est le dessin animé sans
Ah oui.
parole. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est fou. ça raconte tout en fait. Et ça raconte tout à tout le monde, quel que soit l'âge, quelle que soit la nationalité. Et alors en plus, quand il y a de la musique, c'est waouh.
Ouais, c'est vrai, quel que soit l'âge. Et ouais. Surtout quand on devient adulte, on redécouvre. Enfin, moi, je sais que j'adore aussi les dessins animés, bon, aussi parler. Et c'est vrai que quand j'en regarde, que ce soit avec ma filleule ou etc., mais c'est on retrouve notre âme d'enfant, oui. Et puis on comprend autre chose parce que
tout à fait.
Adulte,
tout
à fait. Le sens. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant. Quand on peut faire passer des beaux messages à travers des dessins.
Tout à fait. Et puis aussi, pendant toute une partie de ma vie, j'ai fait de l'improvisation théâtrale.
Ah oui.
Et une des choses que j'adorais, c'est tout le travail de l'émotion. Mmh. Et en fait, le dessin animé sans parole, c'est ça. En fait, on n'est que sur l'émotion.
Ouais.
Tout se raconte à travers des regards, des choses.
Ouais.
C'est un bon...
ouais.
Enfin, voilà. Et je trouve ça fabuleux.
D'accord. C'est vrai. Moi aussi, j'ai fait du théâtre d'impro. Non, je fais toujours du théâtre, mais théâtre où on apprend un texte. Mais
oui.
C'est le théâtre d'impro, moi, ce que j'avais beaucoup aimé, c'est aussi ça fait développer. En 2 minutes, on doit trouver
oui.
une idée. Et l'imagination part, et des fois on se dit, mais où est-ce que j'étais chercher ça? Mais vu
tout
qu'on n'a pas le temps de
tout
réfléchir, on y va, quoi. Et ça, c'est...
Oui. Et moi, j'aimais justement beaucoup les impros sans parole, parce que là,
ah,
on
oui,
est
oui,
dans
oui,
le
oui.
travail du corps, on est dans
ouais.
le travail de la relation à l'autre, en fait.
Ma dernière question, qu'est-ce qui vous fait sourire aujourd'hui, au sens propre du terme? Qu'est-ce qui vous rend souriante?
Beaucoup de choses. J'avoue que je me sens très heureuse de mon quotidien de manière générale. Enfin, je veux dire, j'ai une chance énorme d'avoir des collègues super, de faire un travail que j'aime, d'être dans des galeries qui sont belles, avec des gens qui s'en occupent, qui sont bienveillants. Donc, je suis. Je dirais qu'une des choses peut-être qui me fait sourire, c'est à quel point il y a de belles personnes dans le monde. On critique toujours les mauvaises personnes, mais il y a tellement de bonnes personnes.
Il y a tellement d'autres choses.
Ouais,
pas
c'est
tout le temps
fascinant.
Critiquer les autres.
Ouais,
c'est rien.
C'est merveilleux
ouais.
le nombre de bonnes personnes qu'il y a.
Mm-hmm.
Ça, c'est quelque chose qui m'émerveille. Et aussi, là, j'ai un petit bébé qui va bientôt avoir 1 an. Et je suis émerveillée de la solidarité que j'ai dans les rues. C'est incroyable le nombre de gens qui m'aident. Et beaucoup, beaucoup de personnes différentes. Je trouve c'est émerveillant de voir ça. Donc, je me dis, voilà, les gens sont quand même attentifs les uns aux autres, même
ouais.
dans une grande, enfin, dans une semi-grande ville. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose qui me touche.
D'accord, c'est vrai. C'est vrai. Merci. On va finir là-dessus. Oui, merci pour cette belle discussion. Et puis, je vous dis à bientôt.
Avec joie. Merci à vous.
J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il a éveillé votre curiosité, qu'il vous a inspiré, donné envie d'en savoir encore un peu plus sur l'univers de Roselyne et de pousser la porte de sa boutique au 10 Galerie du Roi à Bruxelles. Je vous invite à découvrir ses créations sur son site roselynedoreille.com ou encore sur son compte Instagram roselynedoreille. Roselyne est une personne solaire, audacieuse et déterminée, c'est ce que j'ai ressenti tout au long de notre conversation. Elle m'a transmis avec poésie sa passion pour le dessin, et comme elle le dit si bien, le dessin est l'endroit où elle se sent chez elle. Ses foulards et autres accessoires donnent une touche unique à notre tenue, un style que j'aime beaucoup. Pour me suivre dans mon univers, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux sous le nom de Isaline Nicole, Isaline avec un Z, ou encore sur le compte Instagram dédié au podcast « J'aime quand vous souriez ». Je vous dis très vite pour un nouvel épisode.